Merci à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce vendredi 6 février 2026. Une question à la une aujourd'hui sur RFI. Qui pour diriger Haïti? Le mandat du Conseil présidentiel de transition prend fin demain et pour la suite c'est l'inconnu total. Émission spéciale donc à partir de 13h, temps universel pour faire le bilan du CPT.
Il est clair que deux ans après, c'est un échec total, un échec absolu. La situation s'est aggravée. Avant, il y avait encore des espaces, des quartiers où la population habitait. Aujourd'hui, ces quartiers sont perdus, contrôlés par les gangs.
Les échecs du Conseil présidentiel de transition, l'avenir des Haïtiens, la violence des gangs, on va en reparler dans nos journaux. Et donc, dans cette émission spéciale, à partir de 13h, TU, avec le représentant d'une ONG, un chercheur, notre correspondant en Haïti et notre envoyé spécial. Autre question dans l'actualité, comment vont se dérouler les négociations entre Iraniens et Américains pour parler en cours dans le sultanat d'Oman, sauf que Téhéran et Washington ne sont même pas d'accord sur les sujets à négocier. On va donc essayer d'analyser cette séquence avec notre invité dans trois quarts d'heure, Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris, président et fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique.
RFI Midi.
Et puis la cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver en Italie, coup d'envoi officiel de ces JO aujourd'hui. Nous serons dans un quart d'heure environ avec le président de la Fédération Française de Ski, sans oublier Afrique Midi. Dans une heure et demie, on reviendra notamment sur les obsèques de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye. Mais d'abord le journal international. Bonjour Karine Belicha.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Un haut responsable militaire russe a été blessé par des tirs ce matin dans un immeuble résidentiel dans le nord-ouest de Moscou.
L'annonce émane du comité d'enquête russe, un organe qui répond directement au Kremlin. Anissa El-Jabri, vous êtes en direct de Moscou. C'est la quatrième fois depuis l'invasion de l'Ukraine qu'un gradé important est attaqué dans la capitale russe. Mais cette fois, le général Alexeyev est une figure bien connu.
Voilà pour le grand public, une image a même marqué. Juin 2023, la mutinerie de Wagner à Rostov. Evgeny Prigojine est à l'intérieur du QG de l'armée russe pour la guerre en Ukraine. Avec lui, deux gradés, dont le général Alexeyev. La scène se déroule avec des échanges qui ont l'air presque badins malgré la tension du moment. Mais elle laisse l'impression tenace que Vladimir Alexeyev est à ce moment-là en quelque sorte otage d'Evgeny Prigojine. À 64 ans aujourd'hui, ce général est le premier adjoint au chef du renseignement militaire russe. Il a été actif sur tous les fronts importants pour le Kremlin, la Syrie et le soutien à Bachar el-Assad notamment. Alexeyev est aussi réputé pour avoir supervisé la myriade de groupes présentés comme des sociétés militaires privées russes. Il est également sous sanction depuis 2019 pour l'usage du Novichok au Royaume-Uni, l'empoisonnement des pères et filles Skripal, fait rare tant les réactions sont habituellement très discrètes dans ce type de cas. Le porte-parole du Kremlin a été interrogé il y a environ une heure sur la protection nécessaire à accorder aux responsables militaires russes, comme toujours. Dmitri Peskov a rappelé que ça n'était pas de la responsabilité du Kremlin, mais bien de celle des services de sécurité.
Anissa El-Jabri, en direct de Moscou, dans son communiqué, le comité d'enquête précise que la victime a été hospitalisée et annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat et trafic d'armes. Aucune piste n'a été évoquée dans l'immédiat. Côté négociation, cette fois, les discussions entre les Ukrainiens et les Russes à Abu Dhabi se sont terminées hier. Le Kremlin l'assure, il s'agit de pourparlers très complexes mais constructifs. Ils n'ont abouti qu'à un traditionnel échange de prisonniers entre les deux pays. Les négociations doivent reprendre dans les prochaines semaines.
Au Pakistan, une explosion dans une mosquée chiite de la capitale Islamabad a fait 20 morts à l'heure de la prière.
Le bilan ne cesse de s'alourdir. 90 personnes ont aussi été blessées. L'origine de l'explosion n'est pas encore officiellement déterminée. Mais il s'agirait d'un attentat suicide, selon une source sécuritaire.
Les négociations qui se sont ouvertes ce matin entre Téhéran et Washington ne concernent que le nucléaire.
Le ministre des Affaires étrangères iranien vient uniquement à Oman négocier avec l'administration américaine un accord sur son programme nucléaire et entend dans ce domaine se défendre contre toute exigence excessive. Pas question pour le régime iranien d'évoquer la terrible répression du mouvement pro-démocratie qui a pourtant fait des dizaines de milliers de morts et laissé le pays en état de sidération. Parmi la diaspora iranienne, certains n'espèrent pas grand-chose des négociations entre Washington et Téhéran et certainement pas la fin du régime islamique islamique, comme Rousbeh Farah à Nippour. Il appartient à l'opposition nationaliste et laïque américaine de Los Angeles.
From the day one, I was advising and suggesting to the people.
Depuis le début, je disais aux gens de ne pas attendre Superman. Il n'existe qu'à Hollywood, pas dans la réalité. Personne ne viendra vous sauver. Il faut croire en votre propre force. C'est elle qui peut changer votre destin. Avec la répression, tout le monde pensait que Trump et les États-Unis avaient un plan pour aider notre peuple. Mais les gens ont réalisé que le président Trump recherchait un accord sur le nucléaire. D'ailleurs, il l'a dit lors de sa campagne présidentielle. C'est l'Amérique d'abord. Son travail n'est pas de sauver les vies iraniennes, mais de veiller aux intérêts américains. Donc, quand vous avez des négociations et que le peuple n'est pas autour de la table, personne ne peut le défendre. Je pense que c'est logique. Le peuple iranien n'est pas là. C'est le régime, c'est-à-dire le tueur qui est à la table.
Rousbeh Farah à Nippour, interrogé par Abla Junaidi. De son côté, le président américain n'écarte pas l'option militaire. Si les négociations échouent, une armada navale est déployée dans la région. Et pour Marco Rubio, son chef de la diplomatie, il s'agit aussi à Oman d'évoquer les missiles balistiques du régime, ses soutiens dans la région, mais aussi la question des droits humains.
Les États-Unis qui ont par ailleurs mené une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau.
Deux personnes ont été tuées, une attaque justifiée une nouvelle fois par le transport sur cette embarcation de drogue à destination des États-Unis. Depuis le début de l'opération américaine en septembre, au moins 128 personnes ont été tuées et 37 bateaux détruits, sans preuve apportée que les navires visés soient impliqués dans des trafics. L'ONU dénonce des exécutions extrajudiciaires.
C'était il y a un peu plus d'un mois maintenant. Nicolas Maduro, enlevé par les forces spéciales américaines.
Toujours sous la pression de l'administration Trump, l'Assemblée du Venezuela a adopté à l'unanimité en première lecture une loi d'amnistie générale. Elle couvre les 27 ans du pouvoir chaviste et doit permettre la libération de tous les prisonniers politiques. Son adoption définitive est prévue la semaine prochaine.
Dans l'actualité également, la France et le Canada qui ouvrent chacun de leur côté un consulat général à Nuuk, la capitale du Groenland.
Des représentations diplomatiques dans ce territoire autonome danois en soutien au gouvernement local et à Copenhague face aux ambitions américaines de s'emparer du Groenland. Même si la crise s'est un peu apaisée, Washington et l'OTAN doivent négocier un accord sur l'avenir de l'île arctique.
En France, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, est sommé de s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.
Il est convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères. L'exécutif s'inquiète que la controverse n'éclabousse l'Institut du monde arabe que Jack Lang préside. Même si aucun acte répréhensible n'a été relevé, les appels à sa démission se multiplient alors que son nom apparaît près de 700 fois dans les millions de documents publiés par Washington qui ont mis au jour les liens d'intérêt de Jack Lang et sa fille avec le financement accusé de trafic sexuel de mineurs et mort en prison en 2019.
Et puis toujours en France, cette déclaration, un trucage digne d'une république bananière.
C'est signé Jean-Luc Mélenchon. Il s'est indigné hier du classement de son parti, la France Insoumise, comme mouvement politique d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur en vue des prochaines élections municipales le mois prochain. Aurélien Devernois, bonjour.
Bonjour.
C'est une décision totalement assumée par le ministre Laurent Nunez, mais qui suscite un certain trouble.
Et en particulier à gauche, un cadre écologiste pourtant fermement opposé à la ligne insoumise estime ainsi que c'est, je cite, une saloperie seulement destinée à faire un équivalent entre la France insoumise et le Rassemblement national. Depuis plusieurs années, en effet, le camp présidentiel, la droite traditionnelle et une partie de la gauche social-démocrate s'emploient à désigner les deux partis comme les représentants des extrêmes, comprendre des dangers pour la France. Ce nouvel étiquetage électoral n'est donc pas seulement symbolique, il crée de fait trois camps distincts. Une extrême droite considérée comme illibérale, une extrême gauche révolutionnaire et un grand ensemble allant des républicains jusqu'aux communistes, garant de la stabilité des institutions. C'est d'ailleurs comme cela que Laurent Nunez a justifié la classification. La France insoumise refuse la discussion parlementaire et multiplie les appels à la censure, explique le ministre de l'Intérieur. Il fait d'un refus de petit déjeuner avec lui, selon la formule d'un député insoumis, un délit d'opinion, complète Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise contre-argumente. Notre stratégie, c'est d'arriver au pouvoir par les urnes, contrairement à la réelle extrême gauche, Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, pardon, qui selon lui ne voit dans les élections qu'une simple tribune pour provoquer la révolution.
Aurélien Devernois, du service.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'annulation de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars!
I love soca sweet. rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.